DW. Droits et libertés.
Ça fait 25 ans cette année que Vladimir Poutine est au pouvoir. Il est arrivé à la tête de la Russie en 1999. Depuis son accession au Kremlin, Vladimir Poutine a renoué notamment avec une partie des États africains. On va revenir sur cette stratégie africaine de Vladimir Poutine et sur les intérêts de la Russie en Afrique avec notre invitée de cette semaine, Tatiana Smirnova. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Tatiana Smirnova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'université de Sherbrooke au Canada et vous connaissez bien la Russie. Vladimir Poutine est maintenant au pouvoir depuis 25 ans et après une décennie où il y avait peut-être eu un petit peu moins d'échanges dans les années 1990. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a décidé de miser sur une coopération renforcée avec certains États africains ?
Il ne s'agit pas d'un phénomène totalement nouveau, mais plutôt d'un héritage de liens entre l'Union soviétique et l'Afrique. Donc, juste pour mentionner très brièvement cette partie historique qu'à partir des années 50, l'URSS avait apporté un soutien quand même considérable au mouvement d'indépendance d'abord, et puis aussi aux États post-coloniaux comme un outil en fait, de confrontation globale avec le bloc occidental, mais aussi pour des raisons économiques, pragmatiques. Donc, l'URSS, comme la Russie, en fait, aujourd'hui, elle est incarnée pour certains pays en figure d'acteur contre-hégémonique à l'Occident. Et donc, la doctrine de la politique étrangère de la Russie, adoptée le 31 mars 2023, reprend bien ce même narratif contre-hégémonique de l'URSS, donc en promettant de contribuer, ça je cite, à l'élimination des inégalités socio-économiques, intensifiées par des politiques néocoloniales sophistiquées, menée en Afrique par certains pays développés. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce retour de la Russie sur le continent a été analysé comme aléatoire ou fragmentaire. Cependant, lorsqu'on déplace en fait le regard d'analyse dans un cadre géographique un peu plus vaste, notamment au Moyen-Orient, il devient un peu plus évident que le développement de la politique de la Russie dans les pays du continent africain n'était d'une certaine façon un prolongement naturel de la politique d'influence menée toujours par la Russie, en fait, au Moyen-Orient. Lorsqu'on analyse le retour et le rétablissement de la Russie d'abord au Moyen-Orient et ensuite en Afrique, on trouvera beaucoup de parallèles, notamment en ce qui concerne le déploiement des compagnies militaires privées. Dans le retour en Afrique et le retour au Moyen-Orient, il y a cette quête de multipolarité, du monde multipolaire, très chère à Vladimir Poutine. Et d'autre part, les événements en fait, de tension avec l'Occident, ils ont accéléré ce pivot géopolitique de la Russie.
Pourquoi avoir choisi certains États africains pour opérer des premiers rapprochements plutôt que d'autres ?
Si on prend comme un exemple le Mali, le Mali, c'est un pays traditionnellement, historiquement très cher à l'URSS sur le plan symbolique parce que l'URSS avait soutenu le Mali parmi les premiers pays au Sahel. Avec la chute de l'URSS, il y avait toujours la coopération avec le Mali. Mais l'intensification des liens a été un résultat d'une dynamique assez complexe. Déjà historiquement, l'Afrique était fourrie, on peut dire, des armes russes. Des armes soviétiques, l'Algérie et l'Égypte étaient parmi les premiers acheteurs depuis très longtemps, pendant très longtemps. Après aussi, si on regarde sur le plan historique, l'URSS accordait un soutien au mouvement de libération nationale en fournissant des armes et aussi en formant des combattants à la guérilla. Donc il y avait tout un réseau en fait, des centres de formation même en URSS. Donc à cette époque-là, il y avait une dimension idéologique au volet sécuritaire. Aujourd'hui aussi, la politique sécuritaire de la Russie en Afrique se construit, se présente comme un soutien dans la lutte anticoloniale. Donc on voit aussi le lien en termes de narratif et en termes de communication.
Et là, Vladimir Poutine joue de l'image qu'ont conservé certains Africains de l'Union soviétique, qui avaient appuyé, comme vous le disiez, de nombreux mouvements de libération, de lutte anticoloniaux. Pourtant, l'idéologie qui est maintenant transportée par un Vladimir Poutine n'a pas tellement à voir avec celle qui était prônée en Union soviétique.
Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas ça, en fait, qui compte ici, à mon avis. Ce n'est pas le contenu de l'idéologie, mais ce que représente la Russie aujourd'hui en Afrique. Bon, pas partout en Afrique, mais dans certains pays. Tourne toujours le regard vers le Sahel où la guerre elle est absolument atroce et terrible depuis 2012. Il y a eu tellement déjà de morts, surtout dans la population civile, bien avant l'arrivée des Russes au Sahel. Il y a eu beaucoup de morts dans les civils. Donc, il y a eu beaucoup d'interventions occidentales au Sahel. Quelque part, pourquoi est-ce que l'offre de la Russie était tellement attractive? C'était parce qu'il y a un énorme désespoir en Occident qui n'avait rien fait, entre guillemets, pendant tout ce temps-là, etc. En fait, c'est que je suis en train de juste vous traduire à peu près ce qu'il y avait comme des ressentis de population.
Mais c'est ça, la Russie a profité de l'échec des politiques occidentales pour se poser en alternative, en solution potentielle.
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Lorsqu'on regarde la période allant de 2021 à 2023, il y a eu plusieurs coups d'État, n'est-ce pas? Il y a eu le Mali, il y a eu le Tchad, le Burkina Faso, la Guinée, finalement le Niger. Et donc, ce coup d'État, en fait, il traduit aussi qu'il y a des processus complexes de lutte pour le pouvoir au sein des États. Il y a un processus de transformation des États même au Sahel. Et pourquoi ça se passe? Parce que pendant de longues années, il y a eu aussi des abus des élites politiques, il y a eu des politiques de non-inclusivité de plusieurs communautés, la gestion non équitable des ressources, notamment l'accès à l'eau et à la terre. Tout ça, ça avait contribué à générer des frustrations depuis des années. Quelque part, on vit aujourd'hui dans cette époque de transformation des États, de reconfiguration de pouvoirs locaux, où plusieurs acteurs se confrontent, y compris la Russie qui fait partie des acteurs, qui ont des agendas tous très différents. Ce que je dis, c'est que oui, la Russie avait profité d'un échec de politique occidentale au Sahel, mais la situation elle est beaucoup plus complexe parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux de pouvoir locaux, il y a les États qui se transforment. Pourquoi Poutine est si attractif? Pourquoi la figure de Poutine est si attractive? Parce qu'il incarne cette image d'un homme fort, donc qui est capable de mettre de l'ordre dans le désordre. Et donc cette image-là, elle va aussi de pair avec cette nostalgie de régime fort en Afrique. Qu'on voit un peu comme l'un des patterns, c'est un appui fort aux dirigeants de pays pour le maintenir au pouvoir. Le vrai enjeu ici pour les États, c'est d'avoir la capacité de garder une forme d'autonomie de cette, entre guillemets, l'influence russe. Parce que donner sa sécurité à un acteur extérieur, c'est de lui donner énormément de pouvoir. Ce sont des dispositifs qui renforcent, mais aussi qui fragilisent énormément les États parce qu'ils deviennent dépendants.
Un des grands intérêts de la Russie sur le continent africain, c'est aussi l'aspect économique, l'accès aux ressources naturelles, aux sources d'énergie notamment.
Bien sûr, oui. Certains secteurs stratégiques de l'économie russe dépendent d'ailleurs directement du continent. Si on parle des bauxites, par exemple, je crois que pas moins de 25% de l'aluminium russe est fabriqué à partir de la bauxite guinéen.
De Guinée, oui, oui.
Oui, en Guinée. D'ailleurs, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les documentations produites par les chercheurs russes, il y a énormément d'articles ou de productions académiques qui sont consacrées à l'analyse des économies des différents pays africains.
Tatiana Smirnova, un grand merci.
Mais merci beaucoup à vous.
C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Tatiana Smirnova de l'Université de Sherbrooke au Canada pour cet entretien. Vous pouvez podcaster ou partager Droits et Libertés en vous rendant sur notre site internet dw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.